Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, il faut finir bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Terrain Vague. Bonjour à Tom en régie et bonjour à Maëlys, notre stagiaire qui est avec nous en ce moment. Et bonjour Noluck qui est notre invité ce jour.
Bonjour.
Noluck est un artiste qu'on connaît aussi sous le nom de Julien. Alors Noluck, eh ben on va parler de ta petite personne, n'est-ce pas? Comme à chaque fois que j'invite un artiste. Bon, effectivement, normalement, je découpe un peu toujours l'émission en deux, donc ton parcours, etc. Là, je me suis dit, on va le faire en vrac, on se connaît, j'ai pas besoin de faire de découpage. Donc, on va taper dans le dur direct.
Allez.
Alors, tu nous dis un petit peu quel est ton parcours quand même, enfin, comment t'es arrivé justement à ce que tu fais aujourd'hui, enfin, un petit peu les grandes étapes de ta vie.
Ok. On va essayer de résumer ça, alors. Moi, j'ai toujours dessiné hein, depuis que je suis au collège.
Ouais.
Une fois que j'ai été adulte, que je suis allé dans les études supérieures, je suis descendu à Montpellier. Moi, à la base, je suis originaire d'Ardèche, à la campagne.
Mmh.
Et après une année dans un BTS qui ne me plaisait pas du tout, j'ai fait de l'art appliqué.
Ouais.
Une mana, puis un BTS en design graphique. Donc c'est là que j'ai vraiment commencé à toucher vraiment au dessin pur et dur, on va dire, où je me suis un peu plus impliqué là-dedans. et c'était vraiment en parallèle des études, parce que les études, il y avait un côté intéressant où j'apprenais à dessiner, j'apprenais à faire du design, travailler de la typographie, ce genre de choses-là, qui, pour le coup, me plaisaient. Mais les études, en règle générale, c'était pas mon truc. Et du coup, tout le côté artistique, c'est un truc que j'ai commencé à développer pendant mes études, mais en parallèle.
D'accord.
On était un groupe de potes et on montait des expos en parallèle. On essayait un petit peu de faire ça à notre sauce, mais en dehors. Et c'est parti de là, en fait.
Ok.
Et puis après, c'est là que j'ai commencé à fréquenter quelques artistes sur Montpellier, notamment Mara, que tu as déjà invité.
Qu'on connaît, qui est déjà venu.
Voilà, Kuro.
Qu'on invitera aussi.
Sûrement, voilà. Et donc, c'est avec eux qu'on a commencé à faire un petit peu... à se lancer un petit peu plus professionnellement, on va dire, là-dedans, à faire un peu du street art, à monter les premières expos, et en fait, c'est parti de là.
Tu faisais partie de ces étudiants qui, pendant les cours, gribouillaient sur un coin de feuille.
Ah ouais.
Plutôt que d'écouter
puis,
le prof.
les profs, j'allais à l'encontre complètement de ce qu'ils me disaient. Hein. On devait faire des projets professionnels, on devait faire du graphisme pur et dur.
Mm-hmm.
Et moi, je montais un projet qui était purement artistique où...
Ah oui.
Où pendant des mois, je me battais avec les profs pour que mon projet passe.
Ah ouais.
Quitte à avoir des sales notes après en résultat final, mais...
Ah oui, mais tu tenais quand même coûte que coûte à mettre en œuvre ton projet, quoi.
Ouais.
Donc du coup, c'était à l'ESMA, c'est ça?
C'est ça.
Donc tu fais tes études donc, en design graphique, et puis donc à part, comme tu dis, tu commences à monter des projets avec d'autres artistes. Quel genre de projet t'as pu monter comme ça dans tes débuts et qui t'ont donné envie de poursuivre en fait dans cette voie?
Bah, les tout premiers projets qu'on a montés, c'était avec une asso qui s'appelait Waven.
Mm-hmm.
Et on faisait ce qu'on appelait les expos éphémères.
Ouais.
Donc moi, j'ai participé avec Kuro justement à la toute première. Mara, que j'ai rencontré justement juste après, faisait l'expo sonore numéro 2.
Mm-hmm.
Après, moi, je suis devenu graphiste de cette asso pendant quelques années.
D'accord.
Et du coup, bah ouais, c'est les premiers trucs qu'on a fait, mais c'était vraiment des expos étudiantes dans des bars.
Ça n'avait
pas une très très grande prétention, mais c'était ouvert à tout le monde. Et ça, c'est vrai que ça a mis une bonne dynamique au départ, quoi. Ça nous a vraiment motivés à fond.
Ouais.
Et je pense qu'après, à partir de là, tout ce temps qu'il y avait une espèce de truc collectif où on montait des choses ensemble.
Mm-hmm.
Et puis après, il y a un moment où on s'est tous un peu plus refocus sur notre travail personnel, quoi. Pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça, parce qu'au début, on se cherchait, on testait plein de trucs.
Et oui, forcément.
Et puis moi, il y a eu aussi un moment un peu transitoire, c'est le moment où je suis arrivé dans les ateliers Ernest Michel.
Ouais, on va en parler.
Ouais, on va en parler. En fait, c'est là que moi, ça me fait aussi une transition où je me suis, entre guillemets, vraiment professionnalisé, où j'ai vraiment poussé ce que je faisais à fond.
Ok.
Le fait d'avoir un atelier, ça a permis ça.
Ouais, ça fait partie des questions que je voulais te poser justement. Donc, tu es résident permanent des ateliers Ernest Michel hébergés par Line Up. Tu partages ton atelier avec ce bon vieux Marat.
Toujours là, de toute façon.
Toujours, l'un ne va pas sans l'autre. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans?
Bientôt 3 ans, je crois.
Bientôt 3 ans, c'est ça? Quelle a été la volonté quand tu es arrivé dans les ateliers? Enfin, pourquoi tu cherchais un atelier? Quelle a été cette envie au départ?
Ben, au tout départ, déjà, Marat était là, arrivé il y a un an avant moi.
Ouais.
Et du coup, je passais souvent dans les ateliers.
Oui, tu venais déjà.
De temps en temps, je venais peindre un peu.
Ouais.
Et moi, ce qui me plaisait, c'était, il y avait deux choses. C'était déjà le fait d'avoir un lieu où travailler. Mm-hmm. Mais ça, j'aurais pu prendre n'importe quel garage. Enfin, j'étais pas obligé d'aller dans un lieu collectif.
Oui,
mais,
c'est sûr.
Mais il me fallait un lieu pour travailler parce que sur son salon, dans sa chambre, il y a un moment où on est vite limité, où on n'a plus de place.
C'est pas l'idéal.
Où on peut pas tout le temps tout faire, quoi. Mm-hmm. Surtout que moi, je suis vraiment touche à tout, donc.
Oui.
Voilà, j'ai des outils dans tous les sens.
Des outils, des matériaux.
Voilà, quand je me lance dans un truc, je fous un bordel monstrueux. Voilà, je fais du bruit, je fais de la poussière. Donc voilà, il me fallait ce lieu-là.
Ce n'est pas un bûcheron, hein, c'est vraiment un artiste.
Ouais, on peut se poser la question. du coup, ça c'était vraiment le premier truc.
Donc d'avoir un lieu pour avoir un espace pour pouvoir mettre du matos,
pour pouvoir stocker. Voilà, vraiment, ça, c'était une espèce d'impératif. J'arrivais à un stade où je pouvais plus faire ça, en fait.
Eh oui, bien sûr.
Et le deuxième truc, c'était, du coup, en venant aux ateliers un peu pendant un an, squatter un petit peu l'atelier d'Anas, là, j'ai pu rencontrer aussi tous les artistes mm-hmm. qu'il y avait dans les ateliers. Je me suis bien entendu avec tout le monde.
Ouais.
Et moi, ce que j'aimais bien, c'était le fait de pouvoir échanger aussi.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, quand on est dans sa chambre, dans son salon, en fait, on n'est qu'avec soi-même. Alors c'est bien, ça permet d'avancer vite, hein, on a plein d'idées, mais oui. En fait on n'a pas de recul sur ce qu'on fait.
Ouais.
Et si une fois de temps en temps t'as une expo, tu parles avec les personnes qui passent à l'expo, mais c'est pas tous les jours que t'as une expo, c'est pas tous les jours que tu peux parler de ton travail, tandis que là c'est un peu au quotidien, t'as une idée, tu vas en parler, ça fait évoluer ton taf en fait.
C'est sûr, tu vas aller demander l'avis des autres, surtout que aux ateliers ce qui est cool c'est que y a pas de concurrence en termes... purement graphique, on va dire, parce que vous avez tous des univers hyper hyper différents, donc y a pas de enfin vous allez pas vous copier les uns les autres, quoi, on va dire. Et je trouve que ça apporte un regard critique sur ce que chacun fait. Enfin, tu vas aller poser la question à Mathieu qui est juste à côté, qu'on a reçu aussi, Mathieu Lucas, sur ce que tu fais, enfin avoir simplement son avis, qu'est-ce qu'il en pense, et tu te nourris de ces échanges en fait pour toi aussi peaufiner ce que tu fais,
ouais, j'imagine. Puis moi, en plus, j'ai vraiment mon travail, on en parlera peut-être un peu plus après, mais il se décline vraiment sur plein de supports différents et de plein de manières. Et en fait, du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir d'autres artistes autour de moi parce mm-hmm. que eux, ils ont utilisé peut-être certains outils que moi, je vais utiliser, ils utilisent certaines techniques que moi, je vais pouvoir utiliser, on peut en discuter. Il y a certaines choses que j'ai vues que eux font, je vais pouvoir le réutiliser un peu à ma manière. Voilà. Donc ça m'a permis, en tout cas au début... Maintenant, peut-être je me suis un peu...
T'es un peu installé maintenant.
Voilà, je me suis un peu installé, puis j'ai testé pas mal de trucs. Mais en tout cas, dans la première année, ça m'a permis vraiment de... la première année, j'ai fait que créer... Tous les jours, je créais des nouveaux trucs, et ça partait dans tous les sens, mais ça m'a permis de développer et de tester plein de trucs.
Eh oui, oui.
Et donc ça, c'était super intéressant. Ouais.
Donc, on va venir justement à ce que tu fais, parce qu'on n'a pas encore abordé. Donc, tu as développé ce qu'on appelle un langage asémique.
Qui n'a pas de sens, exactement.
Enfin,
en tout cas, verbalement parlant. Quoi.
Oui, voilà. inspiré de langage d'écriture ancienne, oublié, ou de ta propre imagination.
Ouais, voilà, c'est... Alors...
Tu nous parles un petit peu de ce que...
Alors, tout le monde me demande souvent d'où est-ce que ça vient. Il n'y a pas vraiment de début à ça. Hein. On en parlait, c'était pendant mes cours... Je faisais ça un peu en parallèle. C'est venu à ce moment-là, je faisais du figuratif au début, puis il y a ces écritures qui sont venues un peu. Au début, c'était des motifs. Puis je trouvais ça intéressant, donc je l'ai développé, j'ai rempli des carnets et des carnets. Mm-hmm. Où j'ai essayé d'inventer des espèces de fausses écritures.
Okay.
Qui, graphiquement, il y a une cohérence, on a l'impression que c'est une écriture, mais après, dans le fond, il n'y a pas de système de codage, il n'y a pas vraiment de message caché.
Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de... Ouais.
Voilà, et en fait, je l'ai développé pendant plusieurs années. jusqu'à arriver à quelque chose qui est un petit peu plus cohérent maintenant. Il y a un style. Mm-hmm. J'ai pas forcément un alphabet, il y a pas un nombre de lettres définies, ça évolue toujours un petit peu.
Ouais.
Mais plus le temps passe, en fait, plus il y a une espèce d'identité qui se forme. Et donc là, maintenant, quelqu'un qui connaît un petit peu mon travail, il va reconnaître facilement mes écritures.
Direct, si on se balade, je sais pas, enfin, j'ai envie de dire en ville tout simplement, ou dans les rues du quartier Méditerranée, ou même dans les rues de l'Écusson, on va voir, on va passer à côté d'une œuvre, et si on te connaît, comme tu dis un peu, on va la reconnaître direct.
Ouais. Et après aussi, il y a quelque chose, surtout là, quand tu parles de ce que je fais dans la rue, c'est identifiable, hein,
ouais.
Mais j'ai pas forcément envie que les gens l'identifient à moi.
Okay.
Je signe pas mes œuvres dans la rue.
C'est vrai.
Et souvent, la manière dont elles sont incrustées,
ouais.
C'est comme si elles étaient là depuis longtemps.
Voilà, alors on va y venir justement. Pour ceux qui connaissent No Luck et pour ceux qui ne le connaissent pas, les œuvres que tu réalises dans la rue, bah comme ça, hein, sur ton temps libre, c'est pas une commande ou c'est pas un projet ou quoi que ce soit. Souvent, ces lettres entre guillemets que tu vas venir mettre dans des failles un peu de crépi qui est tombé par le passage du temps. Donc on va voir en fait ces motifs dans le mur. Et en fait, on a l'impression que on sait pas dater, on sait pas si c'est là depuis toujours ou si c'est quelqu'un qui est venu le mettre la veille. On se demande si on gratte un peu le crépi, ben, s'il y a pas d'autres motifs qui sont incrustés là. Donc il y a un côté passé qui est assez intemporel, un peu bon à l'image de ce que tu fais. Mais c'est quoi juste ton postulat de départ, j'ai envie de dire. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te mettre dans ces endroits-là, dans ces failles un petit peu?
Ben moi j'aime bien que la personne qui va tomber sur ça,
ouais.
Elle soit un peu comme une espèce d'archéologue en fait,
ouais.
Qu'elle soit un peu dans cet esprit-là de curiosité, de découverte. Et ben justement qu'elles se disent si je gratte tout le mur, est-ce qu'il n'y a pas une fresque, est-ce qu'il n'y a pas un message secret, qu'elles se posent des questions, qu'elles s'interrogent. Ça j'aime bien, c'est un truc qui me plaît pas mal, et ça j'essaie de le développer dans le street art par rapport à ce genre de création, mais ça peut être aussi sur des expositions en fait.
Mm-hmm.
C'est l'ensemble de l'univers en fait que j'essaie de développer par rapport à ça, c'est créer de la curiosité et en fait essayer de s'imaginer tout ce qui va derrière cette écriture. Comme si c'était plus qu'une écriture,
ouais.
Une civilisation, quelque chose qui aurait existé.
Dans un autre
ou
temps.
Qui existera, en fait, on ne sait pas trop. Et même le côté. C'est un peu intemporel ce que je fais aussi. Hein.
Complètement, complètement.
Souvent, ça va quand même plus dans l'imaginaire sur quelque chose d'ancien. Mais j'essaie aussi parfois de le ramener sur quelque chose qui peut être futuriste.
Est-ce que c'est déjà arrivé que sur une œuvre que tu as fait dans la rue, il y ait justement des gens qui aient gratté un peu le crépi pour voir s'il y avait plus loin ou pas?
Alors, c'est peut-être possible, parce qu'il y a des fois où... Mais après, le crépi, il tombe aussi de lui-même.
Oui, hein. De lui-même aussi, c'est vrai.
Mais oui, il y a des fois où je repasse quelques semaines après, le trou s'est un peu agrandi, mais je pense que c'est pas tellement des gens qui ont gratté, c'est peut-être plus juste le temps qui fait ça.
Moi, voilà. Je choisis de croire que c'est les gens qui ont gratté.
Ouais, moi aussi, c'est
bon. Bah, du coup, on parle de ce côté intemporel. Et c'est vrai que quand on voit certaines de tes œuvres, et notamment bah, ces petits cubes que tu as mis, bah, qu'on a vu par exemple à l'exposition Caractère que tu as fait en 2022 avec Nasty à l'Espace Feuillade dans le cadre d'un projet lauréat Montpellier 2028, tu avais fait des espèces de petites villes via des cubes rouges, un peu couleur terre ocre, là, comme ça. Et ces villes-là, tu avais incrusté des petits composants, électroniques,
ouais.
Voilà, à l'intérieur. Et la mise en scène, ça faisait penser à la fois, comme tu dis, à un truc du passé, à des ruines, notamment. Mais en même temps, ça faisait futuriste, parce que ces composants-là, ils apportent une autre époque. Et ça faisait très, genre, Tatooine, Star Wars, enfin, tu vois,
ouais.
un truc un peu vraiment mêlé entre passé et futur, quoi.
Bah en fait, c'est un truc que j'essaie de plus en plus à mettre dans mon travail, c'est un peu cette ambiguïté, en fait, entre le passé et le futur, quoi.
Mm-hmm.
Parce que, comment dire...
Bah ça va avec le côté archéo que tu disais, du coup.
Voilà, il y a ce côté archéo, et puis il y a surtout se dire... j'essaie de mettre le spectateur en tant que... dans le regard d'un scientifique, d'un archéologue.
Ouais.
Mais ça peut être un archéologue en 2024,
mm-hmm.
Ou alors je peux... transporter mon spectateur en l'an 3500,
ouais.
Qui, et en fait il est en train d'observer notre époque ou même l'an 3000, Donc, est-ce que dans 1000 ans, notre société, ça ne sera pas revenir à des choses traditionnelles,
ouais,
tout en gardant une partie de notre technologie? En fait, quel va être notre futur? Ça me permet, en tout cas, tout ce qui est en dehors des écritures, hein, que je vais ramener dans le volume ou un peu quand je fais du figuratif parfois.
Ouais, aussi. Oui.
Je vais pouvoir venir raconter d'autres histoires que je peux pas mettre, en fait, les écritures.
Tu questionnes beaucoup le spectateur dans sa place, la place qu'on a dans le temps, un petit peu, en fait, à travers ce style-là. On va y revenir, mais on va d'abord faire une petite pause musicale avec un morceau que tu nous as proposé. Le morceau, c'est Savages de Alta. Et on se retrouve juste après. Turn the music up. Let's turn them lights down. Just a little more on the headphone. There we go. Yeah. All right. Tell the young they can never become what they aspire to. Born in a cell with no one who can inspire you. Your highs are was never as high as those who lie to you. Pretending that they live in the sky, lying behind your roof. Shooting holes up at your ceiling, trying to find the proof. Trying to fight the feeling, the truth. Tied up like the noose they make your ceiling. Dipped in diamonds so that you find it appealing. Time for dealing, despite y'all dealing. We are the savages, the natives who fight the appeal of all the lavishes. The brave who find what is real and call it as it is. And use a mind and will to escape the laws of averages. To be rich and broke, to be broke and rich. You see it all gets flipped by those who master this. Who give a whole new meaning to what gymnastics is. Jumping over the walls on old mattresses. The savage. We are the savages.
We are the savages.
The savage.
Savage.
The savage.
We are the savages.
The savages.
The savages.
We are the savages.
The savage.
Who told you poverty made criminals? A self-fulfilling prophecy they drilling you. Think of all who made it with their options at a minimal. It takes being creative when they say the block will limit you to savages. The raw talent to those that have to live outside the comforts of the norm where the challenges form the outliers in the culture that will clash in them. Who own their own style cause they can't afford the fashion trends of mantra. The savage mind will not be conquered. The contradiction you find inside a monster with a cannon that you can't fire without an author like a phantom. That you can't drive outside the opera when you can't stand up for your gold. They gonna stop me. When you can't stand up, then it's gold. You got an Oscar. What they afraid of, what later they will applaud for. When that which you were made of it later becomes an eye form, the savage.
We are the savages.
We are the savages.
The savage. The savage.
We are the savages.
The savages.
The savages.
We are the savages.
The savage.
All right, yeah. Going back to the 90s. Woo! Alta.
Savage.
On est de retour dans Terrain Vague avec Nolak. Ce morceau, pourquoi?
Pourquoi? Bah, c'est surtout que là, depuis fin de l'année dernière, je l'écoute un peu en boucle, quoi. Il revient souvent dans la playlist.
Ouais. Bon, bah voilà, c'est pour ça. Vous l'aurez remarqué, hein, à chaque fois qu'on invite un artiste, les morceaux sont vraiment très, 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 très différents. C'est l'éclectisme avant tout. On va revenir un petit peu sur ces villes que tu construis. Je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil ou à son Insta ou à son Facebook. Les liens sont sur la page dédiée à l'épisode pour vous rendre compte un petit peu de quoi il en retourne et à quoi ça ressemble. On a reçu Tanguy Kawatmilk la semaine dernière. On a parlé de la galerie éphémère et tu fais partie des artistes qui ont été sélectionnés du coup pour participer à la prochaine édition qui sera les 2, 3 et 4 février.
C'est ça.
À Villeneuve-les-Maglones. Tu nous expliques un petit peu en quoi consiste l'installation que tu as proposée du coup à la galerie éphémère et sur laquelle tu bosses depuis de nombreuses semaines.
Ouais. Alors déjà il faut savoir c'est qu'il y a un petit peu un thème déjà par rapport au commun.
Tout à fait.
Chez tous les artistes qui est autour de en gros de l'eau hein, plus ou moins.
C'est ça, préservation des zones humides.
Voilà, les zones humides tout ça. Et du coup. Je me suis dit, l'eau, elle peut être là ou elle peut être absente. Mm-hmm. Ça peut être aussi ce côté-là. Et en fait, du coup, l'idée, c'est de partir sur une espèce de ville, comme on dit, plus ou moins futuriste ou ancienne, on ne sait pas trop le côté intemporel. Mais en tout cas, une ville qui a été, entre guillemets, ravagée par le temps et par l'absence d'eau. En fait, cette ville, elle est complètement désertique, elle est asséchée. Voilà, et en fait, on plonge dans un peu une espèce de grande maquette, en fait.
Ouais.
Et on est sur une espèce de ruine antique au milieu d'un désert.
Arabe. D'accord. C'est bien parce que ça nous projette un petit peu sur une éventualité.
Ouais, voilà.
Si l'eau se fait rare, elle est déjà rare en ce moment, mais effectivement, enfin, bon, j'espère pas, hein, mais c'est un espèce de scénario un peu catastrophe que tu nous
c'est
livres.
C'est ça, ça peut être le manque d'eau ou alors l'inverse, hein, qui est trop d'eau, mais en tout cas, là, c'est ça un petit peu, voilà.
Okay.
Qu'est-ce qui arriverait à notre société si, au final,
si on avait
tout
plus,
se finissait dans un désert, quoi.
Ouais. Et donc cette install, elle va être, tu la mets sur quelque chose ou ça va être au sol?
Non, c'est en hauteur, c'est vraiment à hauteur de regard à peu près.
À hauteur de regard. Okay.
Même, enfin, même pour les enfants, hein, que tout le monde puisse vraiment l'observer.
Mm-hmm.
Et ça va faire, c'est une bonne install qui fait 2 mètres par 3 à peu près. En tout cas.
Ah oui, donc un gros.
Oui, une bonne ville. Ouais.
Ah bah,
j'ai coulé quelques petits blocs.
Oui, pour les avoir vus à la télé, je peux dire qu'il y en a des petits blocs, il y en a beaucoup. C'est cool parce qu'en plus, je me demandais comment tu t'étais emparé de ce sujet, les zones humides. C'est pas évident pour tout le monde. Il faut arriver à s'emparer du sujet, à se l'approprier.
Surtout avec l'art abstrait, parfois. Ça peut être très simple parfois, certains sujets.
Ouais.
Et moi, mon travail, c'est des écritures. Donc, les écritures et l'eau.
Et c'est ça.
Enfin, j'ai eu pas mal d'idées différentes, mais où je trouvais pas forcément qu'il y ait une pertinence particulière. Ouais. Et puis après, je me suis arrêté sur cette idée. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette ville. Et je me suis dit, là, c'est le bon moyen, c'est le bon compromis entre ce que je voulais faire et ce sujet-là.
Et ce sujet-là, c'est clair. Du coup, c'est cool parce que j'en apprends encore aujourd'hui, tu vois. Tu bosses, donc là, en l'occurrence, ces petits cubes-là, ils sont en plâtre, c'est ça?
Ouais, c'est du plâtre coloré que je coule dans des petits moules en bois.
Ouais, que tu as toi-même fait.
Ouais.
À l'aide
d'une découpe laser qui me facilite grandement la vie.
Tu m'étonnes. Mais du coup, c'est pour dire qu'en fait, tu travailles sur beaucoup de matériaux, sur du bois, sur du carton, sur du papier que tu fais toi-même.
Ouais.
Pourquoi cette pluralité, pourquoi cette envie de...
Moi, il y a un truc que j'aime par-dessus tout, c'est apprendre à faire des choses.
Mm-hmm.
Moi, je suis très manuel, donc j'ai besoin de toucher la matière. Et ce que j'aime à travers mon style graphique, en fait, c'est que j'ai la possibilité de l'incruster où je veux, quasiment où je veux.
Ouais,
faut trouver la bonne idée, la bonne manière de le ramener. Et du coup, j'aime beaucoup l'artisanat, tu vois.
Ouais.
Et en fait, ça me permet, entre guillemets, d'apprendre des choses de l'artisanat et de les retranscrire dans mon art. Ou de mettre mon art sur des choses.
Ouais.
Et du coup, en fait, à chaque fois, je vais essayer de toucher à des nouvelles choses. Là, c'est des moulages en plâtre. La fois d'après, je vais aller faire de la poterie.
Oui, tu as fait de la poterie. Pendant longtemps, mais le résultat était trop cool.
Mais voilà, mais du coup, à chaque fois, j'essaie de... En fait, j'ai 36 milliards d'idées et j'arrive jamais à tout faire. C'est ça le souci. Alors, on n'a qu'une vie, mais... Mais j'essaie d'aller toucher à plein de techniques différentes. Et j'ai aussi ce truc où j'aime bien arriver à avoir tout le processus de création de A à Z.
Ok.
Que ce soit moi qui dirige tout, entre guillemets, du début à la fin. Bon, ça, j'essaie un petit peu de me calmer, parce que comme je disais, on n'a qu'une vie. Et du coup, des fois, il faut savoir déléguer un petit peu à d'autres personnes. Mais en tout cas, voilà, c'est le principe de création, le processus... que je trouve super intéressant.
Et de tout, de tout imaginer du matériau que tu vas utiliser jusqu'à la fin, en fait. Enfin, de A à Z.
Même fabriquer les outils qui vont...
Et fabriquer les outils, surtout.
Ouais, puis en fait, souvent, il y a plein de moments où j'ai une idée, et en fait, c'est le côté technique. Résoudre le côté technique, je trouve ça intéressant.
Ouais.
Et il y a plein de fois où il y a des outils qui n'existent pas dans le commerce. Tu ne peux pas les trouver.
Et oui.
La dernière expo que j'ai fait l'année passée, je travaillais... sur du polystyrène, il faut que je le découpe avec un fil à chaud, et les fils à chaud que tu trouves dans le commerce, clairement c'est nul en fait. Enfin, pour ce que je voulais faire, ça fonctionnait
pas. Ouais, ça fonctionnait pas, ouais.
Et du coup,
t'as dû créer
j'ai pris une alimentation d'un vieux ordinateur, un peu de fil qui chauffe, 3 soudures, et puis voilà, il y avait le truc.
Voilà.
Mais ouais,
en fait,
parfois,
c'est comment tu mets au service ta, parce que t'as la créativité artistique, mais t'as la créativité aussi artisane, je sais pas si on peut dire comme ça, dans le sens où pour arriver à faire ce que t'as en tête toi, et ben tu vas faire en sorte de faire l'outil, si tu le trouves pas, de faire l'outil pour arriver à faire ce que tu veux.
Des fois,
je
me prends la tête pas mal sur ça, un peu trop parfois, mais.
Ton colocataire pourra en parler pendant un moment. On parlait tout à l'heure, enfin très rapidement, tu as parlé du figuratif. J'ai vu moi, j'en ai une chez moi, des portraits de femmes notamment, où tu viens mettre tes symboles. Là, dans le côté passé, futur, on ne sait pas trop quelle époque donner à ces personnages. Enfin, on est en plein dedans. C'est curieux quand on voit ce que tu fais, de savoir que tu fais aussi du figuratif et que tu le fais bien en plus. Enfin, pourquoi, quel a été l'attrait en fait?
Le figuratif, pour le coup, c'est pas quelque chose que je montre trop.
Non,
c'est vrai. Il y a eu qu'une seule expo où j'en ai un petit peu montré, là, c'est la Lunelle.
Caractère, ouais, tout à fait.
Mais sinon, c'est quelque chose que je garde un peu plus pour moi parce que pour moi, c'est pas encore assez abouti, on va dire. Ouais. C'est plus personnel, peut-être aussi. Mais en tout cas, que ce soit le figuratif ou même les cubes, le volume. Toutes ces choses-là, on va dire. Ce que j'aime là-dedans, c'est que ça me permet de ramener plus d'informations que juste mes écritures.
Ah oui, c'est sûr.
Et en fait, moi, ce que j'essaie de créer avec le temps, c'est tout un univers. Donc, ça va être essayer d'imaginer une civilisation, tout en restant un petit peu vague, parce que si je suis trop précis, j'enlève le côté imagination du spectateur. Mais du coup, ça va être créer les habits que ces personnes portaient, leurs bijoux. Les objets traditionnels, voilà, les vases qu'ils avaient, voire les objets du quotidien, les fourchettes,
tu fais comme une espèce d'étude en fait.
Voilà, les petites villes, là c'est le côté architecture, pardon, j'avais perdu le mot. Voilà, l'architecture, en fait, essayer d'imaginer tout ça, une civilisation complète en fait. Du coup, ça prend du temps mais je trouve ça intéressant de temps en temps, en fait, tu vois, le figuratif, c'est une fois tous les 6 mois, ça me pète, et pendant deux jours, je fais du figuratif.
Ça te fait faire autre chose. Moi, je trouve ça hyper intéressant, et comme tu dis, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est ton propos, donc forcément, c'est très complémentaire de ce que tu fais, parce que quand on voit ces portraits de femmes, on a l'impression à la fois que ça pourrait être, je sais pas, une vieille civilisation aztèque ou maya, tu vois, parce que tu leur mets des habits colorés, des bijoux un peu comme ça, mais à la fois, ça pourrait être, enfin, je me rappelle surtout d'un grand dessin qu'il y avait à l'espace Feuillade, la nana ressemblait un peu à un samouraï. Je me rappelle ce grand dessin avec des écritures sur le côté là. Donc je trouve que c'est hyper complémentaire de ce que tu fais dans le sens où ça participe à amener le spectateur dans cet univers où passé futur se mélange quoi. Ouais.
Et puis ça vient aussi illustrer le propos que je mets dans mes écritures, mais qui est un petit peu plus il faut le deviner.
Ouais.
C'est un peu ce mélange de temporel. Mm-hmm. Et il y a aussi le mélange des cultures.
Ouais.
En fait, mes écritures, elles sont inspirées de plein de cultures différentes. Et du coup, c'est une espèce de langage médecine, universel, en tout cas graphiquement. Ouais. Quoi. Et ça, pour ceux qui passent un peu du temps, ils vont un peu le comprendre, tu vois. Mais la calligraphie, c'est pas quelque chose qui va parler à tout le monde. Et c'est le figuratif, c'est pour le coup plus facile d'accès.
Ah complètement.
Et c'est un moyen, entre guillemets, de faire comprendre le message que je veux mettre dans mes écritures, mais de manière plus simple. Donc, tu vois, par exemple, les portraits de femmes.
Ouais.
Souvent, c'est des femmes qui vont avoir un physique très typé, peut-être d'une civilisation,
oui.
mais qui vont porter des vêtements qui n'ont rien à voir avec leur civilisation.
Qui n'ont rien à voir, ouais, je vois.
Il va y avoir des contrastes un peu comme ça, où tu te dis, mais en fait, il y a un côté un peu illogique là-dedans.
Ouais.
Et pareil, tu peux te dire, c'est peut-être notre futur. C'est un truc où les civilisations ont tellement bougé, se sont tellement mélangées qu'elles sont devenues ça, quoi. Elles ont hybridé, quoi. C'est un petit peu ça, quoi.
On arrive à la fin de cette émission, on aurait pu continuer longtemps comme d'habitude. Je rappelle que du coup la galerie éphémère c'est les 2, 3 et 4 février, c'est à Villeneuve-les-Maguelone, vous pourrez retrouver les infos sur le site de la galerie éphémère. Merci beaucoup Nolok d'être venu au micro de Terrain Vague.
Merci pour l'invitation.
Et merci Tom, et à bientôt.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir... les graffeurs comme des délinquants, on s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.